France Culture.
À Mayotte, la fin des centres d'hébergement d'urgence, mais les sinistrés n'ont toujours rien. Témoignage de pompiers de retour de mission. Et puis en Iran, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, est libre pour raison médicale, mais elle n'abandonne pas son combat. À Mayotte, les autorités annoncent la fin des centres d'hébergement d'urgence. Ces centres, 120 au total, ont accueilli jusqu'à 15 000 personnes. Mais ces bâtiments doivent désormais retrouver leur fonction première, selon le préfet. Pour la plupart, ce sont des écoles et la rentrée scolaire est prévue au 13 janvier. Des tentes adaptées vont être distribuées, précise le porte-parole de la sécurité civile. Mais la plupart des sinistrés sont démunis et vivent avec presque rien, comme ont pu le constater ces pompiers de retour en métropole après 2 semaines de mission. Paul Tillier a pu les rencontrer.
Après 2 semaines passées au milieu du chaos, le regard de l'adjudant-chef Jean-Christophe Le Cerf en dit long sur ce qu'il a vu à Mayotte.
Ils sont pieds nus, ils marchent par terre, ils marchent sur du verre, ils vivent de rien. Cette tristesse aussi dans le regard des gens, des enfants qui nous demandent à boire, qui nous demandent à manger. On avait des pâtes de fruits, donc donner des pâtes de fruits à des enfants, tout de suite ils avaient le regard qui pétillait.
Levés à 5h du matin tous les jours, les pompiers du Loiret se transforment en hommes à tout faire. Médecine d'urgence, plomberie, déblayage ou tronçonnage, le tout dans des conditions dantesques, raconte le lieutenant Grégory Adam.
On a connu les journées les plus chaudes à 37-38 degrés avec des ressentis qui avoisinaient les 50 degrés. Je crois que j'ai jamais autant bu d'eau, je vais pas dire de ma vie, mais en tout cas en si peu de temps. On était entre 2 et 3 litres d'eau par demi-journée.
Il retient surtout la résilience des Mahorais.
On a été surpris en fait de ce sourire de la population mahoraise qui, malgré cette catastrophe immense, conserve cette tête froide, ce recul, ce pas en arrière et qui disent de toute façon, la fatalité est arrivée et que demain sera fait d'un autre jour et qu'ils reconstruiront de toute façon, coûte que coûte. Je pense que ça restera une des missions les plus marquantes de ma carrière.
Si la tâche est colossale, le lieutenant Grégory Adam en est certain, Mayotte se relèvera.
Un reportage ici Orléans, anciennement France Bleu Orléans. Et la situation à Mayotte, nous y reviendrons ce midi sur France Culture. Florent Vallée, directeur de l'urgence et des opérations de la Croix-Rouge, sera l'invité du journal de 12h30. De nouvelles actions des agriculteurs sont attendues demain et lundi près de Paris et sa banlieue. Mouvement mené par la coordination rurale. L'ACR a obtenu un rendez-vous avec le Premier ministre le 13 janvier, mais ce n'est pas suffisant selon sa présidente. Cette mobilisation se déroule dans un contexte électoral puisque la campagne pour les élections aux chambres d'agriculture débute ce mardi. La colère de Donald Trump aux États-Unis, le président américain élu, dénonce une attaque politique illégitime. Réaction après la décision cette nuit du juge en charge du dossier Stormy Daniels. Il confirme le verdict du jury populaire. Donald Trump sera donc bel et bien condamné. Il est convoqué le 10 janvier prochain pour connaître sa peine dans cette affaire des paiements dissimulés à cette ancienne star du X. L'apartheid de genre appliqué en Iran ou en Afghanistan doit être criminalisé au niveau international. C'est le message qu'envoie la prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, depuis Téhéran, où elle bénéficie depuis le 4 décembre d'une relative et temporaire liberté pour raison médicale. C'est le message en tout cas que ses soutiens font passer. Nathael Charbonnier, malgré les menaces, malgré les conséquences, malgré les conditions, Narges Mohammadi continue son combat.
C'est la force des grands de savoir porter des combats qui dépassent largement leur propre sort et personne. Alors que Narges Mohammadi bénéficie de quelques jours de répit, avec une permission pour raison médicale qu'elle utilise pour soigner l'ablation d'une tumeur et une greffe osseuse, elle en profite aussi pour communiquer. Ses proches expliquent que la prix Nobel rencontre des représentants de la société civile à Téhéran, et cela malgré les représailles judiciaires qui sont à craindre. Elle brave les interdits et milite pour que l'apartheid de genre soit reconnu comme un crime partout sur la planète, explique l'avocate Shirin Ardakhani, membre du collectif Iran Justice.
Le message aujourd'hui qui est celui de Narges Mohammadi, c'est qu'il faut criminaliser dans le droit international l'apartheid de genre qui sévit en Iran et en Afghanistan, qui fasse en sorte de mettre au ban des nations les États comme celui de la République islamique, comme celui des talibans, qui méconnaissent le droit des femmes.
Criminaliser l'apartheid de genre et rester vigilant sur ce qui se passe en Syrie, car l'histoire prouve, insiste l'avocate, que la démocratie n'est pas possible, contrairement à ce que disent certains groupes islamistes, lorsque les droits fondamentaux des femmes sont niés.
Nathalie Charbonnier. Le bras de fer continue entre Budapest et Bruxelles. L'Union européenne estime qu'il y a trop de corruption en Hongrie. Il y a 2 ans, la Commission a gelé 20 milliards d'euros selon le nouveau mécanisme de conditionnalité. Pas de respect des normes, pas d'aide. L'argent bloqué vient pour moitié des fonds de cohésion et l'autre moitié vient du plan européen post-Covid. Or, la première tranche de ce plan post-Covid a expiré au 1er janvier. La Hongrie perd donc 1 milliard d'euros. Florence Labruyère, l'économie hongroise peut-elle s'en sortir ?
Zsuzsa Levay avait un petit bistrot qui marchait bien dans le centre de Budapest. Mais après la pandémie du Covid, elle a dû fermer, car elle n'a reçu aucune aide tangible du gouvernement hongrois.
Le gouvernement a fait semblant de nous aider. Il a un peu baissé les cotisations, mais il y avait une telle paperasserie à remplir que tout est allé dans la poche de mon comptable.
Si le gouvernement Orban n'a pas pu aider les PME, c'est parce que la Commission européenne a gelé la majorité des fonds post-Covid destinés à la Hongrie, car Bruxelles juge le pays trop corrompu. La Commission a aussi suspendu 30% des fonds communautaires, un coup de semonce plus qu'une punition, car 70% de l'argent européen continue à affluer. Et puis Viktor Orban a trouvé la parade. Il a emprunté 1 milliard d'euros à des banques chinoises. Pour Dora Durfi, professeure d'économie à l'université Corvinus, la Chine se sert de la Hongrie comme d'un cheval de Troie.
En 2023, la Hongrie a reçu 44% des investissements chinois en Europe. Les Chinois n'auraient pas mis tant d'argent si nous n'étions pas un État membre. Donc le gouvernement hongrois n'a pas intérêt à quitter l'Europe.
Et pour récupérer l'argent européen, Viktor Orban a plus d'un tour dans son sac. Il menace de mettre son veto aux décisions qui doivent être prises à l'unanimité.
Florence Labruyère, la météo, 16 départements sont en vigilance orange à la neige et au verglas, alerte qui débute à 21h ce soir. Le reste de la journée sera principalement nuageuse et pluvieuse.